Territoires en mouvement, l'émission qui questionne les mobilités d'aujourd'hui et celles qui dessinent les territoires de demain. Présentée par Anne-Solange Muis sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur Radio Territoria pour notre toute première émission Territoires en mouvement. Et pour cette numéro 1, je vous propose de partir faire un tour de France en vélo.
En Europe, il y a des tours qu'on lance, tours d'Italie, tours de Babel. Mais il n'y a qu'un seul tour de France, comme il n'y a qu'une tour Eiffel. Le tour de France ne vous déplaise, voit 40 ans sur des vélos. Sillonnez nos routes françaises, sous les couleurs de...
Vous aurez peut-être reconnu la voix de Jean Cyrano, accompagné à l'accordéon de Fredo Gardoni, un célèbre duo des années 1950 lors des Tours de France. Un Tour de France qui a largement contribué à faire connaître les territoires traversés par les cyclistes, notamment lorsque la télévision a pu filmer les coureurs à partir de 1952, profitant de l'occasion pour médiatiser, en plus des étapes, les paysages et le patrimoine français, et l'occasion également politique de montrer la France aux téléspectateurs nombreux et notamment aux 190 pays étrangers rivés sur leurs téléviseurs pour l'occasion. Aujourd'hui, en 2020, sur 60 millions d'habitants en France, un peu plus de 9 millions de personnes, soit environ 14% de la population globale, pratiquent le vélo, selon les chiffres du ministère en charge des sports. Comme tous ont pu le voir depuis la pandémie de 2020, les pistes cyclables dites « pistes Covid » se sont répandues un peu partout en ville, marquant pour certaines les prémices de plans de mobilité, où une place plus généreuse sera enfin accordée au vélo. Et c'est une bonne chose, car même si seulement 40% des cyclistes ont une pratique hebdomadaire de la petite reine, la pratique du vélo sur route et piste cyclable est la deuxième activité d'extérieur des Français après la randonnée pédestre. Une pratique qui s'est développée durant l'année 2020 et la pandémie liée au Covid-19. Alors, la vélorution est-elle en marche? C'est la question autour de laquelle nous allons débattre aujourd'hui avec nos invités que j'ai le plaisir d'accueillir et remercie dès lors pour leur présence. Madame Pia Hims, bonjour, merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes présidente de l'Eurométropole de Strasbourg depuis le 15 juillet 2020, également maire de la commune de Holzheim depuis 2014. Vous êtes docteur en sciences économiques et maître de conférences en sciences de gestion à l'EM Strasbourg. Je salue également la présence de David Le Breton. Bonjour David.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver dans cette émission. Vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg, membre de l'Institut universitaire de France, chercheur au laboratoire Dynamiques européennes, anthropologue et sociologue français, spécialiste des représentations et des mises en jeu du corps humain, auteur de nombreux ouvrages, notamment un récemment publié en 2020, « Marcher la vie à un art tranquille du bonheur » aux éditions Métayer et « En roue libre, une anthropologie sentimentale du vélo » aux éditions Terre Urbaine. Et pour vous accompagner, Madame Camille Thomé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour évoquer la thématique du vélo. Vous êtes directrice de l'association Vélo et Territoires, une association qui représente les territoires cyclables auprès des instances nationales et européennes et s'appuie sur des expertises qu'elle mène et capitalise dans des publications. Pour introduire notre discussion, je vous propose d'écouter les témoignages tirés du documentaire Les Roues Libres de France 3 Pays de Loire, diffusé en 2018.
Ça fait partie des quelques alliés du quotidien qui sont importants.
Pour moi, un vélo, c'est uniquement un objet remplaçable.
Concrètement, je suis pas sûre qu'au niveau de la santé, ce soit top, parce qu'il y a quand même plein de fois où je bouffe du pot d'échappement de bus.
Ça représente encore, pour certaines, curiosité.
Et ouais, il fait partie de ma petite vie, en fait.
Moi, j'ai fait tellement de kilomètres avec que c'est comme ma tante, quoi. Enfin, ma tante TENTE.
C'est comme écouter de la musique. Tu vois, des fois, t'écoutes un sacré morceau et voilà, le monde, il s'ouvre autour de toi.
Je vais vous dire, en plus, moi qui suis retraité maintenant, je dis, mais ils ont de la chance d'aller au boulot. Parce qu'avec leur vélo, je vois des gens qui passent chacun à son allure sur le vélo, tout ça, c'est un spectacle beaucoup plus intéressant que les voitures. Hein.
Donc des témoignages qu'on vient d'entendre assez touchants, hein, vous avez pu constater, qui montrent aussi une diversité dans nos attachements au vélo, à cet instrument assez particulier. Alors Madame Hims, l'Eurométropole de Strasbourg possède un territoire cyclable important, hein, plus de 600 km de pistes et une fréquentation de plus de 10% d'usagers par an. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce maillage assez exemplaire en France ?
Le projet a déjà plus de 40 ans. En 1978, la communauté urbaine de Strasbourg avait déjà son premier schéma directeur vélo. Et j'ai tendance à croire que notre identité transfrontalière avec l'Allemagne y est aussi pour quelque chose. Nous avons de longue date une culture du vélo sur le territoire de l'Eurométropole. Alors, la ville-centre d'abord, mais... clairement, avec une offre de tram également et une politique de mobilité active et décarbonée, nous sommes identifiés aujourd'hui sur ce positionnement d'offre de mobilité alternative et particulièrement cette culture du vélo. Je pourrai le détailler un petit peu plus tard. Cette culture du vélo, nous cherchons à l'approfondir et à lui donner tous les moyens pour que cette pratiques du vélo sont encore plus largement partagées.
Mmh. Oui, c'est intéressant. Madame Camille Thomé, le schéma national des véloroutes compte 58 itinéraires, dont 10 eurovélos pour un linéaire total de 25 587 km au 1er janvier 2021. Est-ce que ça vous semble suffisant ? Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce schéma national ?
Alors oui, tout à fait, on vient d'en dévoiler les nouveaux chiffres d'ouverture de l'année écoulée 2020, où on a vu un montant d'ouverture, 1784 km, jamais vu jusqu'à présent. Après, il faut pas non plus se faire de grandes claques dans le dos et se dire c'est formidable, on rattrape notre retard, parce que, comme l'a indiqué Madame Hims, l'Eurométropole de Strasbourg a commencé il y a 40 ans et elle est plutôt en pointe, selon les standards français, et la France, de façon générale, et les territoires moins densément peuplés notamment, on est clairement dans une situation de pays en développement sur le vélo. Hein. Oui. On a beaucoup de retard et les grandes nations du vélo, elles ont commencé bien avant nous et c'est l'affaire de décennies d'action. Alors le schéma national, cependant, là où il devient très intéressant, c'est qu'il constitue une épine dorsale structurante pour irriguer les territoires et pour faire en sorte que sur ce schéma national, à l'instar des routes nationales françaises qui constituent le grand maillage, s'adossent là-dessus des schémas régionaux, des schémas départementaux et des schémas locaux cyclables. Or, c'est bien de ça dont il s'agit aujourd'hui. Une politique cyclable à 360 degrés, quelle que soit la qualité du territoire concerné, repose sur la clé de voûte que constitue le maillage cyclable sécurisé et continu et cohérent. Cette hiérarchie et le fait que le schéma national avance bon train en 2020, c'est quand même un indicateur d'intérêt et de mobilisation générale. Donc ça, c'est très positif. Mais c'est aussi preuve qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Parce que le schéma national, les 25 000 km, c'est une très bonne chose. Mais globalement, c'est plus de 100 000 km de maillage cyclable national auquel il faudrait parvenir à horizon 2030 si on veut hisser la France à 12% de part modale et pas uniquement dans des métropoles du type de celle de Strasbourg, Grenoble ou les espaces urbains. Tous les territoires sont concernés par ça et en France, on observe plutôt une fracture territoriale sur les parts modales vélo qu'il s'agit aujourd'hui de gommer.
Oui, c'est vrai. Et David Le Breton, vous avez écrit donc en roue libre une anthropologie sentimentale du vélo parue aux éditions Terre Urbaine en octobre dernier. Et vous consacrez notamment un chapitre à l'envol du vélo. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?
Alors évidemment, c'est une question immense. Je pense que la dimension sensible de notre expérience a été énormément mise à mal ces dernières décennies, notamment par le privilège automobile, mais aussi par la sédentarité qui ne cesse de s'étendre avec le développement technique dans nos sociétés contemporaines. Donc le vélo ou la marche, évidemment, sont des sortes d'alternatives pour retrouver une sensation du monde, se sentir à nouveau actif, d'ailleurs, dans ses déplacements, dans son rapport avec la ville, même dans son rapport avec la campagne. Il s'agit donc de se reprendre en main et donc de retrouver également une sensorialité qui nous échappe de plus en plus. Voilà, je crois que le confinement a été une bonne leçon à cet égard pour nous rappeler que le monde au-delà de nos maisons, au-delà de nos appartements, s'étend un monde immense qui est à notre portée et qu'il est bon justement de remettre en mouvement ce corps tellement sédentarisé, tellement occulté, tellement oublié dans nos sociétés contemporaines. J'ai souvent parlé d'ailleurs à cet égard d'une humanité assise. Alors là, justement, il s'agit peut-être d'être encore assis, mais assis au moins sur sa selle, et puis de mouvoir son vélo par ses propres activités, par sa propre activité physique, par son engagement et voilà, et son initiative. Donc je pense que le vélo a un immense avenir devant lui, comme la marche à pied d'ailleurs. Je pense qu'en ce moment, les cyclistes et les marcheurs sont les pionniers d'un monde à venir où il faudra construire une mutualité commune des déplacements dans un respect réciproque. Ça veut dire évidemment qu'il faut soustraire une bonne part de ce que les voitures aujourd'hui haute à notre rapport au monde, hein, puisque toutes les villes ont été construites autour de la voiture, les routes ont été construites autour de la voiture. Il est temps de restaurer une sorte de partage qui rendra évidemment, j'imagine qu'on y reviendra dans le cours du débat, mais qui rendra nos villes plus conviviales, plus heureuses, plus sécurisées, plus tranquilles, qui fera aussi en sorte que chacun de nous, en tant qu'individu, on soit beaucoup mieux dans notre peau, dans une meilleure santé, dans une meilleure relation aussi avec les autres, puisqu'il est clair que la voiture induit d'innombrables incivilités, d'innombrables violences, d'innombrables accidents également.
Ça, on reviendra dans l'émission. Non, tout à fait. C'est vrai qu'on va revenir sur tout ça dans l'émission, mais effectivement, après la toute-puissance de l'automobile, on a certaines villes ou certains pays, hein, comme le Danemark, les Pays-Bas ou certaines régions de Suisse ou d'Allemagne qui se sont efforcées depuis les années 80-90 à redonner une place au vélo. Madame Thomé, c'est aussi une tendance qui, selon vous, se développe, ce retour du vélo en ville ?
Alors oui, le retour du vélo en milieu urbain, il est particulièrement marqué, et a fortiori à l'année 2020 avec la situation mondiale que l'on connaît de pandémie. Ce qu'on a observé côté vélo et territoire grâce à nos outils de monitoring, si je puis dire, de la politique cyclable et particulièrement notre plateforme nationale des fréquentations, c'est qu'en 2020, si on exclut les périodes de confinement, on a observé plus 27% de passages cyclables sur les différents compteurs agrégés France entière. Donc ça mélange l'urbain, le périurbain, le rural. Plus 27%, c'est complètement inédit, c'est du jamais vu, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est la croissance annuelle qu'il faudrait s'emmollir sur les décennies à venir si on voulait ne serait-ce que rattraper notre statut de pays en développement sur vélo pour atteindre le statut d'un pays comme l'Allemagne, par exemple. Donc ça, c'est tous les ans qu'il nous faut ça pour être dans une trajectoire plan national vélo qui fixe 9% de part modale en 2024 ou stratégie nationale bas carbone qui fixe 12% de part modale en 2030. Alors sur l'urbain, il est clair que ces 27% sont tirés vers le haut par les pratiques du vélo en milieu urbain qui ont littéralement explosé. Alors entre guillemets, vraiment, avec toutes les précautions d'usage à la faveur du de l'épisode que nous connaissons aujourd'hui. Mm-hmm. La raison à cela, c'est que beaucoup d'utilisateurs des transports publics se sont reportés sur de la mobilité de surface et du coup sur les modes actifs. Alors la marche, hein, je pense aussi aura bénéficié de cela, mais le vélo aussi parce que on a mis en avant évidemment que c'était un geste barrière. Mm-hmm. Puis il y a eu tout un tas de politiques d'accompagnement de ce phénomène en 2020, parmi lesquelles les aménagements cyclables de transition, entre guillemets les coronapistes, il y en a eu environ 1000 km déployés ici et là sur tout le territoire, la plupart va d'ailleurs être pérennisée, et puis les phénomènes de coups de pouce vélo. Mmh. Qui permettait, par un dispositif de certificat d'économie d'énergie, de sortir les vélos des greniers, des caves et de bénéficier d'une aide à la réparation pour pouvoir renforcer son vélo. Mmh. Il y a quand même plus d'1,5 million de vélos réparés grâce à ce dispositif en France, plus une ruée vers les magasins de vélos qui vous a peut-être pas échappé non plus. Mmh. Alors, c'est pas la pénurie du tout, mais c'est clair qu'aujourd'hui, tout comme il faut attendre 3-4 mois pour avoir la voiture du bon coloris et les bonnes options, aujourd'hui, il faut parfois un petit peu attendre pour disposer du vélo de son choix.
Et oui, c'est vrai. Madame Hims, vous vous inscrivez aussi dans cette mouvance hein, sur le territoire de la métropole au niveau du développement comme ça des pistes cyclables. Quelle est votre ambition politique pour le territoire ?
Oui, on s'inscrit tout à fait dans cette mouvance. J'ai entendu aussi l'intérêt de lier le sport et la santé. C'est mmh. effectivement aussi une de nos préoccupations, lutter contre la sédentarité. Mais c'est aussi rapprocher la métropole de ses 33 communes. Et donc, dans un souci d'équité territoriale, plus que jamais, nous allons donner suite à toutes les demandes de pistes cyclables intercommunales. Parce que nous avons un plan Vélostrace qui est très, très ambitieux et qui nous amène, c'est inédit, un budget de 100 millions d'euros pour toutes les pistes cyclables intercommunales. Alors, ça nous permet de favoriser des déplacements, par exemple en vélo électrique, lorsqu'on est en seconde couronne à plus de 15 km. Nous soutenons financièrement l'achat de vélos à assistance électrique, par exemple. Mm-hmm. Et puis, il y a les vélos normaux, si vous voulez, mm-hmm. mais qui nous permettent aussi d'apporter des alternatives à la voiture individuelle et à l'autosolisme, à l'heure où notre métropole, comme d'autres, travaille à la mise en place d'une zone à faible émission. Et donc, il nous faut plus que jamais nous donner les moyens d'offrir des mobilités alternatives. Et cette offre donc d'infrastructures cyclables qui favorise le vélo sous toutes ses formes, cette offre est très très bien accueillie et montre une attention de la ville-centre, si vous voulez, vers des communes plus périphériques et qui ont besoin de ces infrastructures pour le travail également et pas simplement pour le loisir.
Est-ce que vous développez des vélos en libre-service pour des personnes à mobilité réduite ? C'est une ambition que vous avez sur le territoire ?
C'est une ambition qu'on devrait avoir. Nous ne sommes pas encore prêts en la matière. Nous étions très précurseurs sur le modèle du vélo, évidemment du vélo en libre-service, et que nous préparons, que nous mettons aussi à disposition avec des tarifs très abordables, par exemple pour les étudiants. Donc on est très soucieux de la précarité dans laquelle vivent un certain nombre de populations, mais pour l'aspect handicap, non. Mais nous avons par contre le Mobistrace, qui est une façon d'aller chercher des personnes handicapées ou très âgées chez elles pour leur permettre de se déplacer sur la métropole. Mais là, on est plutôt sur un système de minibus, je dirais.
D'accord. David Le Breton, qu'est-ce qui, selon vous, est à l'origine de cet engouement pour le vélo que l'on observe un peu partout là, ces dernières années en France ? Est-ce que vous pensez que c'est une conviction écologique ?
Non, je ne pense pas que ce soit seulement une conviction écologique. Je pense que le vélo, évidemment, est un moyen idéal pour se déplacer dans la ville, par exemple, puisque c'est quand on prend son vélo et qu'on a un rendez-vous quelque part, on est assuré d'arriver à l'heure. On a calculé d'ailleurs le temps qu'il nous faudra pour y arriver. On n'a pas de crainte de retard, contrairement à l'automobiliste qui risque, lui, d'être bloqué par des embouteillages, par un camion déboueur qui fait toute une rue, par une livraison ou autre. Le cycliste, lui, il contourne, il n'a pas, il n'a aucun obstacle finalement devant lui, il va son chemin. Donc il est assuré d'arriver à l'heure, il n'a pas non plus les problèmes de parking, évidemment, qui risquent aussi de faire perdre beaucoup de temps à l'automobiliste. Il peut accrocher son vélo n'importe où, enfin, en faisant attention de ne pas le mettre sur un poteau à côté de la piste cyclable, parce qu'on voit parfois des vélos qui sont tombés et qui sont un peu dangereux pour les autres usagers, voire même pour les piétons. Mais généralement, les cyclistes savent quand même comment se débrouiller. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui explique cette passion du vélo soudaine de nos contemporains qui ont pris conscience effectivement que c'est tellement plus heureux, plus propice de circuler en vélo dans la ville en prenant son temps, sans avoir de tension intérieure, de crispation, de conflit avec d'autres automobilistes et autres. Et puis c'est le plaisir de retrouver un rapport à soi, un rapport au corps, un rapport au monde, un rapport au monde plaisant. Donc, je pense que c'est ça la grande raison. Je crois que le confinement nous a appris justement que nous étions des hommes et des femmes du plein vent, des hommes et des femmes pas de l'effort, mais en tous les cas d'une relation physique et sensorielle avec le monde qui nous a terriblement manqué pendant des semaines. Et donc la marche ou le vélo ont été des manières de se réapproprier soudain une vie qui nous a échappé pendant quelques semaines. Et puis à partir de là, je crois que le pli en quelque sorte est pris et que nous cesserons de voir les sentiers se remplir de marcheurs et les pistes cyclables de cyclistes.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure, Madame Thomé, du fait que durant la crise sanitaire que nous traversons, il y a eu un développement plus accru des coronapistes, hein, comme on les appelle, et qui ont certainement aussi favorisé, je dirais, des approches de mobilité plus douces pour certaines communes. Est-ce que vous pensez, là, c'est une question que je vous pose à tous, est-ce que vous pensez qu'une fois les choses redevenues, entre guillemets, normales, si tant est que la normalité puisse exister, est-ce que vous pensez que nous garderons cette pratique, je dirais, accrue du vélo sur nos territoires, Madame Ibs, qu'est-ce que vous en pensez?
Le vélo apporte beaucoup de flexibilité et apporte évidemment aussi, plus globalement, j'allais dire, du bien-être à tous ceux qui en sont adeptes. Il y en a de plus en plus, on peut s'en féliciter. Mm-hmm. Oui, dans le cadre de la période du Covid, on a vu une pratique renforcée et j'ai l'impression qu'il se maintient parce que c'est un plaisir que beaucoup de personnes ont découvert, une facilité de déplacement. Ça m'amène sur ce sujet qu'il faut traiter aussi, c'est bien les coordinations entre des vélos qui sont admis dans des trains ou dans des trams ou des vélos qu'on laisse à la gare parce qu'on a envie de poursuivre le trajet. C'est bien dans cette coordination, dans cette intermodalité qu'il faut travailler. Donc travailler à des complémentarités marche, vélo, transport en commun. Et c'est ça qui fait le succès des mobilités, je le répète, plus décarbonées, moins polluantes et effectivement plus bénéfiques pour la santé en final aussi.
Oui, tout à fait, oui. Madame Thomé, c'est aussi un point de vue que vous partagez ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a un fait particulier sur le vélo. La pratique du vélo, ainsi que le soulignait Monsieur Le Breton, c'est il y a une grande, grande notion de plaisir dans cette affaire. Donc, on a tendance à vraiment souvent l'oublier, mais souvent, lorsqu'on se met à faire du vélo, on est néocycliste, et Dieu sait s'il y a des néocyclistes en ce moment partout. J'imagine aussi, y compris à Strasbourg peut-être. Essayer, c'est l'adopter. Bien souvent, donc on se dit mais c'est incroyable, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ça avant? C'est vraiment souvent la réflexion qu'on se fera un néocycliste, et du coup l'essayer c'est l'adopter, s'il va oser y aller de manière éventuellement timorée par un vélo à assistance électrique parce qu'il s'est dit initialement oh là là c'est trop pour les durs, le vélo c'est pas pour moi, il va finalement ou elle va finalement finir par se dire non mais en fait c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus aisé, je suis beaucoup plus beaucoup plus ponctuel, j'ai perdu 5 kilos, et en plus, il y a le plaisir, cerise sur le gâteau, quoi. Dès lors, les intempéries, le vent, etc., ça devient, lorsqu'on est cycliste au quotidien, un petit inconvénient ponctuel, mais c'est pas une raison pour arrêter, et là, on bascule, on devient vraiment un fervent pratique, quoi. Et en France, on est vraiment en train d'assister à un phénomène, j'en suis très convaincue, de masse critique. C'est-à-dire que là, ça y est, on a atteint un niveau d'utilisateur français du vélo au quotidien qui fait que cet outil de mobilité a atteint un niveau sérieux. Mm-hmm. On atteint notre fameux point de bascule où la croissance de la pratique du vélo était vraiment lente, timorée, très laborieuse, et là on va atteindre un niveau de croissance de plus en plus exponentiel. Il n'y a qu'à voir les plans vélo et les stratégies du vélo des territoires particulièrement ambitieux que l'on voit éclore ici et là. Strasbourg, l'Eurométropole, pourtant c'est la première Eurométropole cyclable française sur le podium depuis des années, sur le podium de la FUB, elle en remet trois couches encore parce que c'est un outil de mobilité du quotidien incomparable. Et avec le VAE, il n'y a plus de côte, il n'y a plus de distance. Donc, c'est l'outil de report modal de la voiture vers un mode actif le plus prometteur. Et puis, il y a un certain nombre de choses qui accompagnent ce mouvement-là. Le Covid a fait gagner 5 à 10 ans de politique cyclable, ça c'est clair, ça a accéléré beaucoup de choses. Et puis il y a eu la loi d'orientation des mobilités, dont les décrets sont sortis progressivement, notamment sur le volet intermodal que décrivait Madame Hims tout à l'heure et qui est tout à fait important, avec désormais pour tous les trains rénovés neufs l'obligation d'embarquer au minimum 8 vélos non démonter, ça c'est quelque chose d'important, et également dans les cars pour les services librement organisés, les cars Macron en quelque sorte, avec l'obligation d'embarquer 5 vélos à bord. Et ça, ça a l'air de rien, mais ça pose les bases de la France intermodale pour lequel le vélo est véritablement l'outil complémentaire des transports publics et des transports collectifs.
Et David Le Breton, pensez-vous du coup que le vélo puisse remplacer la voiture en ville ?
Ah ben, dans l'idéal, évidemment, il le faudrait, même si, bien entendu, les villes resteront accessibles aux automobiles, par exemple, pour les livraisons, pour un certain nombre de raisons également. Je pense qu'il faut simplement construire une sorte de partage, un partage équitable entre les uns et les autres. Donc, construire des mobilités partagées avec les piétons, avec les cyclistes, avec les automobilistes, avec les camions, avec aussi les motards, et autres, afin de restaurer une forme de convivialité dans la ville, un bonheur d'être ensemble sans être en danger les uns les autres, sans devoir en permanence être sur le qui-vive pour ne pas se faire renverser. Voilà, je pense que c'est l'avenir. Il faudrait d'ailleurs aussi que dans toutes les municipalités, on introduise les 30 km/h, parce qu'on sait à travers un certain nombre de recherches, d'études, que 30 km/h, ça construit une fluidité du trafic. Ça permet aux voitures qui sont un peu au-delà, par exemple, de profiter d'une priorité, ou ça permet aussi aux piétons également de pouvoir traverser sans trop avoir peur. De même d'ailleurs pour les cyclistes, quand nos pistes cyclables traversent les rues. Voilà, 30 km/h, je crois que pour les voitures, en tous les cas, ce sera une bonne chose. Et puis pour le reste, de toute façon, les vélos ne vont pas bien vite. Voilà.
On va reparler de toute façon de ces aspects de dangerosité. Juste avant de passer à notre deuxième partie d'émission, je vous propose d'écouter un extrait musical de la chanson de Benabar sur le vélo.
Dans le parc des Buttes Chaumont, un cycliste de 5 ans s'apprête à vivre un grand événement, encouragé par son père et par sa maman. Il va faire du vélo comme les grands. Il empoigne son guidon, c'est parti pour le grand frisson. Sans les petits trous qui stabilisent, va falloir qu'il improvise. Notre équilibriste s'élance sur la piste.
David, vous racontez dans votre ouvrage une partie de votre enfance. Quel est votre meilleur souvenir en vélo ?
Oh, les souvenirs seraient innombrables. J'aurais du mal à en détacher un, mais je revois d'innombrables parcours à travers la campagne, avec des amis, par exemple, pour aller à la pêche, pour aller se baigner. Avec aussi, nous étions évidemment des garçons, donc avec cette espèce d'émulation qui faisait que l'un d'entre nous, tout d'un coup, démarrait, et puis les autres cherchaient à le rattraper. Bon, il y avait souvent ces formes-là de sociabilité un petit peu masculine, mais il y avait aussi le bonheur de s'arrêter sur le chemin, de découvrir des lieux qu'on n'aurait jamais évidemment eu l'occasion d'arpenter sans nos vélos. Donc on pouvait comme ça suivre une rivière, par exemple, en changeant de route, en empruntant des chemins un peu forestiers, etc., ce qui permettait des baignades dans des lieux magiques. Voilà, j'ai plein de souvenirs comme ça, mais aussi des souvenirs de chute qui sont, avec le recul évidemment, qui sont en même temps des souvenirs merveilleux, parce que je suis loin évidemment aujourd'hui de tous les tracas que ça pouvait me causer au regard de la réaction de mon père, par exemple, voyant le vélo un peu abîmé ou autre. Donc voilà, il me reste plutôt de ces chutes des souvenirs d'amitié, hein, quand on devait se redonner le moral les uns les autres.
Oui, c'est un outil de cohésion aussi, finalement. Madame Ims, quelle est votre pratique du vélo ? Elle est quotidienne ? Vous l'utilisez quotidiennement, votre vélo ?
Alors, c'est une pratique importante, j'allais dire, surtout en temps de loisir et les week-ends. Figurez-vous que je me suis offert il y a quelques semaines un vélo à assistance électrique. Mm-hmm. Et donc, le plaisir est de découvrir là aussi... des contrées un petit peu plus lointaines, parce qu'avec un vélo à assistance électrique, on va plus vite et plus loin, très, très rapidement. Et donc, ça permet, comme ça a été dit précédemment, de découvrir un bon rythme des endroits, surtout à la campagne qu'on connaissait pas.
Et oui, bien sûr.
Et donc ça donne effectivement ce sentiment de liberté qui est très très apprécié.
Et oui. Madame Thomé, vous avez un souvenir, une expérience à nous faire partager personnellement sur le vélo ?
Moi, j'en ai vraiment des paquets.
Une courte. Hein.
En fait, le plus marquant, moi, j'ai commencé à vraiment faire beaucoup de vélo quand j'étais étudiante. J'ai eu la chance de faire un Erasmus aux Pays-Bas à l'époque. Donc, imaginez un peu le choc. Et j'étais étudiante à Chambéry, y compris en hiver avec de la neige. Mmh. Et en fait, étant assez adepte de la vie nocturne, quand on est une fille, a fortiori en France, on essaie un peu de raser les murs quand on rentre chez soi le soir. Et en fait, le vélo, pour moi, ça a toujours été un outil de sécurité. Mmh. C'est-à-dire qu'à vélo, je suis invisible. Et ça permet d'éviter les problèmes. Donc vraiment, pour moi, le vélo, ça a été un allié de ma liberté de femme dans ma vie étudiante très fort, et y compris en retour sous la neige avec une personne sur mon porte-bagages vers 2-3 heures du matin. C'était vraiment des souvenirs assez formidables. Donc vraiment, c'est la liberté, moi, le grand souvenir du vélo au quotidien.
Justement, c'est très bien pour la transition sur notre dernière partie, parce qu'on parle de liberté, mais la liberté a un prix, finalement. Je propose d'écouter ceci.
La présidente de l'association Vilo Vélo a décidé de revenir sur les lieux du drame. Lundi, un homme de 70 ans a été fauché par une voiture alors qu'il circulait à vélo. L'automobiliste a pris la fuite. Le cycliste, lui, a succombé à ses blessures.
C'était un cycliste avéré, prudent, il prenait toutes les précautions et ce rond-point, il le prenait tous les jours. Hein. Donc il avait toutes les bonnes conduites, sauf que ce rond-point est extrêmement dangereux.
Un rond-point très emprunté à Niort, tout près de la Rocade. Un véritable point noir de la sécurité routière pour l'association Vilo Vélo. Elle demande aujourd'hui aux élus locaux des aménagements urbains rapides.
Alors vous voyez ici, il y a une piste cyclable à cet endroit-là. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une place dédiée pour le vélo sur ce rond-point qui est vraiment, vraiment très grand. Une place dédiée quand même là pour que le vélo sache où se positionner et ça rassurerait aussi les voitures.
Donc on vient d'entendre un extrait du reportage réalisé sur France 3 Région à Niort le 21 octobre dernier. Et bien évidemment, souvent le reproche qui est fait au vélo, c'est qu'il est dangereux, que quand on risque de tomber, bien, la chute peut être grave, voire mortelle. Et comme en témoignent les chiffres de la sécurité routière, en septembre 2020, on a eu une nette augmentation de la mortalité des cyclistes, 37 décès en un mois, à son plus haut niveau depuis 10 ans. Du coup, comment peut-on diminuer ce risque ? Madame Imps, comment vous gérez cette question sur votre territoire ?
C'est une question importante. J'ai connu des personnes qui ont perdu la vie en faisant du vélo. Alors, c'est des précautions avec le port du casque notamment, mais c'est important ce qui vient d'être dit. C'est aussi savoir aménager des infrastructures en la matière. Donc, rien ne vaut d'écouter les riverains, les citoyens, sur comment ils voient les difficultés. Ce n'est pas en traçant simplement une piste qu'on imagine que le travail est fait. C'est bien aller sur le terrain et observer les dangers. C'est très important. Il faut aussi éduquer les cyclistes qui aiment bien griller les feux rouges parce que ce sentiment de liberté est tellement fort qu'ils s'approprient parfois la voie au détriment des automobilistes et inversement. Donc c'est bien aussi des règles de respect mutuel qui s'impose, mais j'insiste surtout sur des infrastructures qui doivent être pensées avec les gens, parce que c'est eux qui voient les carrefours dangereux et qui doivent donc nous les signaler. Ça me paraît important.
Oui, Madame Thomé, vous selon vous, quels sont les leviers aussi sur lesquels on pourrait agir ?
Alors, oui, clairement, l'infrastructure, l'éducation, un certain nombre de choses, mais je voudrais quand même indiquer qu'on a, de mémoire, jamais connu un cycliste tuer un automobiliste, mais à l'inverse. Oui. On est d'accord. Hein. Oui. Donc, pour moi, ce n'est pas faire du vélo qui est dangereux, parce que vous y récupérez plus d'avantages sanitaires que d'inconvénients sécuritaires, si je puis dire. Pour autant, c'est vrai que l'aménagement et l'urbanisme français actuel est dangereux pour les cyclistes et pour les piétons et pour les usagers non motorisés de manière générale. Donc une fois qu'on a fait ce constat-là, moi je suis très sensible à ce qu'a dit Monsieur Le Breton tout à l'heure. Restaurer le partage, c'est vraiment dans cette équation qu'on se situe aujourd'hui. Et pour cela, évidemment, l'infrastructure, l'aménagement et surtout l'apaisement des vitesses. Un choc avec une voiture à 20 à l'heure, ce n'est pas du tout ni les mêmes distances de freinage, ni les mêmes conséquences qu'un choc avec une voiture en choc arrière 90 km/h sur section courante sur une route départementale qui est à quasiment 100% des coûts fatals. Donc l'aménagement des infrastructures c'est clé, et puisqu'il s'agit d'une séquence radiophonique dédiée au territoire, moi je souligne l'intérêt de l'appel à projet du fonds vélo continuité cyclable qui permet justement aujourd'hui de financer en lien avec les territoires dans le cadre de la mobilité à vélo du quotidien de résorber des coupures de cette nature.
David Le Breton, vous avez un avis sur le sujet avant de conclure ?
Oui, tout à fait. La question des incivilités, la question des violences m'a toujours énormément préoccupé. D'ailleurs, même moi, vivant à Strasbourg, utilisant mon vélo plusieurs fois par jour, la plupart du temps, je ne fais jamais un parcours de chez moi, chez Tigem, jusqu'à mon université, sans être mis en danger par d'innombrables automobilistes qui ne mettent plus leur clignotant, qui tournent donc sans regarder s'il y a derrière eux quelqu'un en deux roues. Donc les infrastructures pour moi sont évidemment essentielles à aménager, mais il y a aussi le rapport aux autres des automobilistes, hein, cet oubli de l'autre qui se traduit de façon percutante aujourd'hui par l'oubli du clignotant. Je crois que dans ce que je vois tous les jours, il y a à peu près une personne sur deux désormais qui met son clignotant et qui oublie, donc en ne mettant pas, ceux qui ne mettent pas leur clignotant mettent en en danger non seulement les autres cyclistes, mais aussi d'ailleurs les autres automobilistes, créer des tensions évidemment avec d'autres usagers de la route, mais c'est aussi absolument meurtrier, sans compter évidemment, mais on est bien habitué à ça malheureusement en tant que cycliste, les portes qui s'ouvrent, parfois en pleine piste cyclable, avec des gens qui se sont garés à côté, qui même parfois ont empiété sur la piste cyclable. Il y a le problème aussi des pistes cyclables qui sont des lieux où l'on met les poubelles, qui sont empruntées par des gens ou par des structures qui n'y ont pas du tout leur place. Donc faire du vélo, c'est à la fois un immense bonheur en ville, mais il faut être en permanence sur le qui-vive, il faut être vigilant. Mmh. Effectivement, un cycliste est beaucoup plus fragile, par exemple, qu'un piéton.
C'est vrai. Bon, notre émission touche à sa fin et en tout cas, je voulais tous vous remercier pour votre participation et collaboration à ce sujet pour lequel on pourrait encore discuter des heures et des heures. J'ai envie de terminer par cette phrase tirée de votre livre David Le Breton, où quand vous évoquez l'enfance, vous écrivez « La bicyclette est une ouverture au monde, un observatoire des manières de penser, de sentir et d'agir, une première expérimentation de la liberté. Un vélo est un instrument d'émancipation, un apprentissage précoce de l'autonomie. » Et pour finir, je vous propose une note joyeuse et pleine d'espoir. Écoutons cet extrait de la chanson « Comme Eddy Merckx sur son vélo » datant de 2011, chantée par les Enfants Fantastiques.
Laissons nos voitures au garage, il est temps de trouver courage. Enfin rouler à bicyclette, pour que la nature soit en fête. L'écologie c'est comme le sport, ça demande tellement d'efforts. Être courageux, volontaire, pour ne pas polluer la terre. Alors devenons super champions, la lutte contre la pollution. J'entends tous en cœur et passons à l'action. Tous les jours faut qu'on s'entraîne à devenir de bons écolos. Vive le règne de la petite reine, pour les vacances comme au boulot. Ménageons pas notre peine, entendez-nous bien en solo. Pédalons à perdre haleine, comme Eddy Merckx. Comme Eddy Merckx.
Et voilà, l'émission touche à sa fin avec ces cris joyeux des enfants qui portent le monde de demain. Alors, tous en selle et merci à tous de votre écoute sur Radio Territoria.
Territoire en mouvement, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et toutes les plateformes de streaming.